Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. D'où vient la vie? Mais qu'est-ce que la vie? Qui ne s'est pas posé cette question? Un créateur? Possible, mais du point de vue scientifique, et seulement selon ce point de vue, la question reste posée. Dans les années 1860, Pasteur démontre que la génération spontanée ne peut avoir lieu. Mais la vie est bien là, et nous en sommes les témoins. Alors, notre invitée, Véronique Receveur-Bréchaud, que je remercie vivement d'être avec nous, va nous donner des éléments de réponse. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Nous avons eu le plaisir de te recevoir à Radio JM plusieurs fois pour des protéines au cœur du vivant en 2011, avec Michel Marcellin, l'eau dans l'univers en 2012, la vie dans les milieux extrêmes en 2009, et il y en a eu d'autres. Mais je vais commencer maintenant tout de suite à te présenter à nos auditeurs. Chimiste de formation avec un diplôme d'ingénieur de l'école de Nancy, docteur en biologie structurale à Orsay, post-doc en Angleterre en 1998, où tu travailles avec un chercheur allemand, Michael Gross, qui écrit un livre dont le titre est « La vie excentrique, voyage dans le monde extrême », que tu traduis en français. En 1999, tu obtiens le prix du jeune chercheur de la Société française de biophysique. Chercheur au CNRS, à Marseille. Tu es depuis 2011 directrice de recherche avec des recherches sur le vivant à l'échelle de l'atome et de la molécule. Aujourd'hui, tes recherches portent sur la régulation de la photosynthèse chez les microalgues et l'assimilation du gaz carbonique. Ton nom sur Internet nous conduit à un très grand nombre d'articles et de publications que je laisserai à nos auditeurs de découvrir. Mariée, trois petites jumelles de 9 ans, deux monozygotes et une hétérozygote, c'est bien ce qu'on dit.
Oui.
Voilà, une très belle famille qui doit bien occuper tes loisirs. Alors, tu fais toujours de la plongée sous-marine et tu m'as dit que tu formais tes filles à ce sport. Tu fais aussi des conférences, invité aussi à d'autres radios. Je crois que ça fait déjà une vie bien remplie. Bon, alors est-ce que tu veux ajouter quelques précisions à cette présentation?
Une belle présentation, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose. Peut-être sur mes recherches actuelles,
oui.
Juste brièvement dire qu'on travaille dans notre laboratoire sur des micro-algues pour comprendre comment la photosynthèse est régulée, en particulier en fonction du rythme jour-nuit, pourquoi elle s'arrête la nuit et pourquoi elle continue le jour, quels sont les phénomènes au niveau moléculaire, atomique, au niveau du métabolisme de la cellule, de la microalgue, comment ça se passe et comment le gaz carbonique est assimilé justement et comment c'est amélioré parce que par rapport justement le gaz carbonique est dans l'atmosphère. Voilà.
Bien. Et est-ce que pour ces recherches-là, on envisage des applications assez immédiates ou plus lointaines?
Alors, il y a des... à long terme, moi, je dirais, même si il y a déjà des champs de microalgues, par exemple, qui existent aux États-Unis, où l'intérêt, c'est justement d'absorber le gaz carbonique. Et puis, on peut citer à Paris, par exemple, les colonnes Maurice, là, les colonnes vertes sur lesquelles il y a des affiches placardées. Mais ils ont mis deux colonnes Maurice, je crois, dans deux quartiers différents de Paris, avec des cultures de microalgues à l'intérieur, dans le but de dépolluer l'air de Paris. C'est peut-être un petit peu... pas prétentieux, mais...
Ça porte quand même son...
Voilà.
D'accord, ok. Bien, alors, Véronique, on va rentrer dans notre sujet. Comment peut-on définir la vie?
Question
difficile.
Difficile. On commence par le plus difficile, en fait, là. C'est... la vie, comment on pourrait la définir? En fait, il y a plus... Si on regarde, il y a plusieurs centaines de définitions de la vie. C'est quelque chose qui est compliqué. Hein. En fait, la vie, pour la définir, c'est plutôt empirique. On va savoir empiriquement, chacun, ça c'est vivant, ça c'est pas vivant. Après... Pour un scientifique, il faut essayer de trouver des choses plus, plus rationnelles, et c'est là où c'est pas évident. Et, donc il y a des choses sur lesquelles on s'accorde, comme par exemple un organisme vivant, ben, ça, c'est capable de se reproduire. Ça, c'est vraiment la condition essentielle. C'est, y a un organisme, et puis il se reproduit, et la vie, elle se perpétue par-delà l'individu. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique numéro un de la vie. Et puis, cette forme de vie, elle échange avec l'extérieur. Elle n'est pas toute seule dans son coin à ne pas bouger. Elle échange de l'énergie, elle échange de la matière. C'est grâce à ça qu'elle peut justement grandir, se reproduire, évoluer. Donc, il y a une notion de métabolisme qui est là, une notion aussi de cellules, justement, de petites entités qui a un intérieur et un extérieur avec lequel ça communique. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on a envie de dire comme étant quelque chose de vivant, a priori. Et puis quelque chose de vivant, ça va évoluer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est que ça se reproduit, mais pas strictement à l'identique. Et ça, c'est important, parce que les conditions environnementales, elles ne sont pas tout le temps identiques. Mmh. Elles évoluent, elles aussi. Et si l'organisme en question, lui, n'évolue pas, un jour, il n'est plus adapté aux conditions dans lesquelles il se trouve, parce que ça a changé, il fait plus chaud, il fait plus froid, il y a plus de gaz carbonique, ou plus d'oxygène, ou plus de ceci ou de cela. Et c'est cette évolution qui fait que l'organisme va s'adapter, ou pas, et disparaître, mais il peut s'adapter, ou aboutir à d'autres formes de vie différentes. Et c'est ça qui va faire que ça continue à vivre malgré les changements qui se produisent autour.
Alors, à t'écouter, je pense à quelque chose, à la différence de la matière inerte qui est constituée de ses constituants et puis c'est tout. La vie, tu l'as définie comme beaucoup de fonctions et non pas de constituants, c'est plutôt des fonctions. De se nourrir, d'échanger, s'adapter, de s'organiser. Est-ce que je dis n'importe quoi ou alors est-ce que c'est ça ?
C'est une bonne remarque. Alors, une question qu'on pose, par exemple, c'est est-ce qu'un virus informatique est vivant ? Il n'y a pas beaucoup de constituants, là. Hein. C'est surtout des bits électriques. Hein.
Oui. Il y a des échanges, quand même.
Il y a des échanges, mais c'est surtout des échanges d'énergie, hein, avec de l'électricité. Hein. Des échanges de matière, pas tellement, finalement. Est-ce que c'est vivant, en fait parce que effectivement, ça échange donc de l'énergie, c'est capable de se reproduire, ça va d'un ordinateur à l'autre.
Oui, mais malheureusement.
Il y a même des virus informatiques qui sont capables d'évoluer, hein. Il y a des lignes de programme qui font qu'ils peuvent se modifier tout seuls. Mais ils sont pas capables de s'auto-organiser tout seuls, parce que ça aussi c'est une caractéristique souvent de la vie, c'est qu'elle est capable de ramasser les constituants extérieurs pour se fabriquer. Le virus informatique, c'est pas lui qui a écrit les lignes de programme, c'est un être humain qui a écrit ce programme. Et puis si on débranche les ordinateurs, il arrête de se reproduire.
Ça, exactement.
Voilà, il est complètement dépendant des activités humaines, même d'une activité spécifique humaine. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de vivant.
Non. Tu as un autre exemple où c'est bon comme ça ?
On pourrait multiplier les exemples à l'infini.
Oui, c'est vrai. Bon, ok. On a essayé de définir un petit peu la vie. Peut-être qu'au cours de l'émission, il y aura d'autres choses qui ressortiront.
Alors peut-être qu'on peut dire de quoi elle a besoin, du coup, à partir de ça. Parce que justement, tu disais qu'il y a besoin de constituants, mais effectivement, il y a besoin de matière. Et cette matière, c'est pas n'importe laquelle, parce que ça va être les... Il y a certains éléments, certains atomes de l'univers, on peut dire même, dont est constituée la vie. Ça va être d'abord le carbone.
Oui, bien sûr, c'est voilà. Essentiel pour nous.
Voilà, l'hydrogène, l'oxygène. Alors, l'hydrogène et l'oxygène, on sait, hein, ça fait de l'eau. Hein. Y a de l'azote aussi. Et puis après, il y a un petit peu de phosphore, un petit peu de soufre, puis de temps en temps, des métaux par-ci par-là, du fer, du cuivre, du nickel, des choses comme ça.
Alors, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a de l'oxygène. Or, on sait que depuis la création de l'univers, au départ, il n'y avait pas d'oxygène.
Au début, il n'y avait pas d'oxygène, tout à
donc,
fait.
Donc, il n'y avait nécessairement pas de vie.
Alors, la vie n'a pas besoin d'oxygène atmosphérique. O2, le dioxygène, n'en a pas forcément besoin pour vivre. Au début de la Terre, l'atmosphère n'était pas du tout était ce qu'on appelle réductrice, c'est-à-dire pas du tout oxydante, comme l'oxygène le dit. Même encore aujourd'hui, hein, beaucoup d'organismes vivants qui vivent sans oxygène et pour qui l'oxygène est même toxique. Donc on appelle ça des organismes anaérobies, c'est-à-dire qui vivent sans air et sans oxygène, qui n'en ont pas besoin ou qui n'en veulent pas.
Des organismes vus autour de nous ou alors dans des
classiques. Je peux citer une qui vit 30 ans en anaérobie, c'est la levure.
Ah d'accord, la levure.
Et la fermentation, alors si je me souviens bien, c'est bien la fermentation alcoolique qui est anaérobie. Il faut que je revoie mes cours, là. Mais il y a des conditions dans lesquelles la levure, elle se reproduit de manière anaérobie, sans oxygène. Il y a des organismes qui ont soit anaérobie, soit aérobie. Il y en a qui c'est strictement anaérobie. Il y en a pour qui c'est non seulement strict, mais c'est souvent des bactéries pour lesquelles l'oxygène est toxique.
D'accord, très bien. Alors, quand est-ce que la vie est apparue? Est-ce que tu peux nous dire, si on peut en parler, si on sait quelque chose, quand est-ce que la vie est apparue et où est-elle apparue?
Alors, quand elle est apparue, ça c'est une vaste question. Alors, quand on travaille sur les origines du vivant, on a deux stratégies. Ou bien on remonte le temps, ou bien on essaye de repartir au début. Alors, quand on remonte le temps, c'est comme ça qu'on essaye de savoir quand la vie est apparue. Et ça, c'est une question qui n'est pas facile, parce que des restes, des traces de vie les plus anciennes, elles ont, pour la plupart, elles ont disparu. Parce que la Terre, la croûte terrestre, elle se remodèle, elle s'altère. Donc, ce qu'on sait, c'est que la Terre, déjà, elle est née il y a 4,5 milliards d'années, à peu près. Le plus vieux minéral qu'on a pu trouver, il date de 4,4 milliards d'années à peu près. Et là, on sait, avec c'est un zircon, qu'il y avait de l'eau déjà. Et la vie, elle a besoin d'eau, H2O, pour vivre. Donc, seulement 100 millions d'années après la naissance de la vie, il y avait déjà de l'eau. Donc peut-être qu'il y avait déjà des conditions, peut-être, pour que la vie apparaisse.
On va dire des conditions, mais pas nécessairement la preuve.
On n'a pas la preuve.
Voilà.
Les plus anciens fossiles, micro-fossiles qu'on ait trouvés, ils datent, de manière attestée, c'est 3,5 milliards d'années. Ça, c'est en Australie. Alors, il y a régulièrement des découvertes. On en a découvert au Québec récemment, ou bien c'était au Groenland. Alors, ces micro-fossiles, il faut toujours être prudent. Est-ce que c'est vraiment dû à quelque chose de vivant ou est-ce que c'est, avec le temps, le minéral qui s'est altéré, qui a fait ces formes-là? Parce que c'est juste des traces dans la roche. Déjà, des bactéries, c'est quelques microns. Donc, pour trouver des traces de quelques microns dans de la roche, c'est difficile. Donc, il y en a qui disent que c'est 3,7 milliards, 3,5. Ce qui est sûr, c'est 3,5, ça, c'est attesté. Voilà. Par contre, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2015, on a vu des zircons sur lesquels il y avait du graphite. Et on a analysé les rapports isotopiques et on s'est aperçu que c'était du carbone qui était d'origine, on va dire, vivante, biogénique. Donc c'était 4,1 milliards d'années, ça veut dire que c'est très très ancien.
Et Tu m'as parlé de stromatolites, c'est ça ?
Oui, les stromatolites, alors, tout à fait. Ce sont les roches. Enfin, les stromatolites, ce sont en fait des structures géologiques, souvent en forme de filaments, qui trahissent la présence d'une vie type bactérie, microbienne. Mm-hmm. Donc, ce sont ces petites structures-là, hein, qui sont microscopiques, hein, et qui sont des restes qui ont été formés par ça s'appelle les cyanobactéries, donc des bactéries qui étaient déjà douées de photosynthèse, hein, a priori, hein, ou au moins d'un métabolisme particulier, peut-être basé sur de la chimie. Donc il y avait les stromatolites, ça révèle la présence de bactéries. Donc
d'accord.
C'est 3,5 milliards d'années.
Alors justement, comme tu me parles de 3,5 milliards d'années, alors 4,5, 4,6, c'est donc la naissance de la Terre. 3,5, 3,8, tu m'as dit, les premiers organismes.
Peut-être même avant, hein.
Peut-être même.
Peut-être 4,1 milliards d'années, hein, puisqu'on a vu du carbone qui était d'origine, a priori, d'organismes vivants, il y a 4,1 milliards d'années.
Donc on peut dire que déjà, entre 800 et 900 000 ans, la vie est apparue.
D'une certaine manière, ça a été rapide.
Ça a été rapide. Hein,
c'est ça qui est extraordinaire.
Et puis, il y a d'autres phénomènes qui ont fait activer la chose. Tu m'as parlé de la photosynthèse.
La photosynthèse, exactement. Et pendant toute cette période-là que je viens de décrire, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Mais il y avait des cyanobactéries qui, elles, avec la photosynthèse, produisaient de l'oxygène. L'oxygène, pour elles, c'est un déchet. Elles absorbent le gaz carbonique. Et elles rejettent de l'oxygène. Mmh. Alors, leur déchet, c'est ce qui nous intéresse, nous. Hein. C'est pour ça qu'on aime bien les plantes. Hein. En générant des grandes quantités d'oxygène, au bout d'un moment, il y a eu un phénomène qu'on a appelé la grande oxydation.
Oui.
Où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère a considérablement augmenté. Il y a eu des organismes qui ont disparu à cause de ça, mais il y en a plein d'autres qui ont apparu. En particulier, il y a ce qu'on appelle les eucaryotes qui sont apparus. Les eucaryotes, ce sont des cellules qui sont constituées d'un noyau. Caryote, ça veut dire le noyau. E, ça veut dire vrai. Donc, elles ont un vrai noyau. Et si le fait d'avoir un vrai noyau, ça veut dire qu'elles commencent à être... C'est des cellules qui sont plus complexes, qui ont des métabolismes qui sont plus sophistiqués, plus poussés. Grâce à l'oxygène, qui est un carburant, hein, donc avec un carburant qui est plus costaud, elles peuvent faire plus de choses. Et nous-mêmes, on est constitués de cellules eucaryotes.
Oui.
Et ce sont les eucaryotes qui sont à la base de la vie pluricellulaire.
Très, très bien. Et alors, puisqu'elles ont un noyau, nécessairement, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Est-ce que justement dans ce noyau, on va trouver l'ADN, l'ARN, etc. ou...
Alors, dans le noyau, il y a l'ADN. Les bactéries aussi, leur matériel génétique, c'est de l'ADN. Mmh. L'ARN, dans les eucaryotes, dans les bactéries aussi, hein, il sert un petit peu d'intermédiaire. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Hein,
d'accord.
Je pense quand on va parler de toutes les molécules qui permettent de fabriquer le vivant.
D'accord. Très bien. Alors, donc tu m'as parlé des premières traces, tu m'as parlé de la grande oxydation, c'est ça ?
Oui.
Puis, avec la naissance des eucaryotes. Et puis, 500 millions d'années, tu m'as parlé de l'explosion du Cambrien.
Alors ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 500 millions d'années, un petit peu plus, il y a eu un épisode au niveau de la Terre. La Terre, elle s'est recouverte de glace, on appelle ça même l'épisode boule de neige.
Oui.
Et au bout d'un moment, cette neige a fini par fondre, mais l'épisode boule de neige a conduit à la disparition de quasiment la totalité des espèces sur Terre. Pas complètement, mais après cette grosse extinction, cette extinction massive, il y a une explosion de la biodiversité. Et justement, les eucaryotes se sont mis à former plein de formes pluricellulaires. Mmh. Et il y a une quantité de fossiles qui est phénoménale, qui date de 500 millions d'années. Ce qui est, par contre, je trouve passionnant, c'est que pendant des années, on était persuadé que la vie multicellulaire était apparue à ce moment-là.
Oui.
Ou en tout cas, elle s'était vraiment diversifiée massivement à cette époque-là. Mais il n'y a pas très longtemps, quelques années, c'était en 2010, il y a un chercheur français qui a découvert au Gabon des fossiles d'organismes pluricellulaires dans des roches qui étaient datées de 2,1 milliards d'années.
Wow.
Donc ça recule de 1,5 milliard l'apparition des pluricellulaires. Alors c'est extraordinaire. Et donc ça a été confirmé après en 2014, parce qu'à chaque fois qu'il y a une découverte comme ça, on reste prudent. Au début, on se dit, bon, quand même, il faut vérifier, il faut confirmer par d'autres méthodes qu'il n'y a pas eu erreur ou qu'il n'y a pas eu surinterprétation. Et ça, c'est extraordinaire. Alors après, on s'est demandé, mais pourquoi on ne l'a jamais trouvé avant? Alors ce qui est possible, c'est qu'avec l'apparition de l'oxygène, il y a eu cette apparition de la pluricellularité. Et puis l'oxygène, il a fait des fluctuations au début, il a augmenté, puis il a redescendu, puis il a réaugmenté. Donc il est très possible qu'au cours d'une chute du taux d'oxygène dans l'atmosphère, bah, cette vie, elle se soit éteinte.
Oui.
Et qu'il n'y ait pas eu un nouveau de pluricellulaire avant longtemps. Peut-être que si, mais qu'on ne l'a pas trouvé encore, hein, on ne sait pas. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la vie pluricellulaire, elle a été inventée plusieurs fois dans l'évolution de la vie. Les pluricellulaires végétaux avec les animaux, ils ne fonctionnent pas du tout pareil.
C'est pas linéaire, quoi.
C'est pas linéaire, exactement. C'est plus erratique.
Oui.
Il y a eu des inventions, et puis parfois, on le voit, ça disparaît. Ça apparaît en 2,1 milliards d'années, puis ça disparaît plus tard, et puis ça réapparaît à nouveau, et là c'est plus pérenne cette fois-ci, les conditions s'y prêtent plus.
Alors, est-ce qu'on sait où la vie est apparue?
Alors là aussi, on n'a pas de preuves, hein. On a des hypothèses. Alors, il y a Darwin qui disait que la vie était peut-être apparue dans une mare d'eau chaude.
Oui.
Parce que comme ça, il y avait la lumière qui pouvait passer, il n'y avait pas très profond, il disait comme ça, il y a de la roche sur laquelle la vie peut se développer, et puis avec de l'eau évidemment, puis chaude, parce qu'au début la Terre était plus chaude qu'aujourd'hui, et puis ça favorise des réactions. Alors il y a des gens qui travaillent sur cette hypothèse-là, il y a d'autres hypothèses, l'une n'excluant pas l'autre d'ailleurs, hein. On pense beaucoup aux fumeurs noirs ou aux fumeurs blancs, ce sont des sources hydrothermales au fond des océans vers 2000, 3000, 4000 mètres de profondeur, hein. Donc très très profond, c'est les dorsales océaniques en fait qui se trouvent plus ou moins au milieu des océans, là où la croûte terrestre se forme, il y en a typiquement au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique, à différents endroits. Et à ces endroits-là, il y a la croûte terrestre qui se forme, parce qu'il y a le magma terrestre qui sort.
D'accord.
Et ça fait de la fumée qui sort, de la fumée noire qui est très riche en soufre, en hydrogène sulfuré, qui est très acide, très chaude, ça atteint 350 degrés. Hein, donc il y a une forte pression, une très forte température, des conditions très acides. Donc au départ, on n'imaginait pas du tout que la vie puisse se développer là. Et dans les années 80, on a des 70, on a découvert qu'il y avait de la vie qui existait là, et en essayant de reconstituer les conditions qu'il y a au niveau des sources hydrothermales, on s'aperçoit que ça peut favoriser, on peut avoir l'émergence de molécules du vivant, donc c'est une hypothèse qui est plausible. Après, on verra, il y a des il y fait chaud, donc peut-être que la vie, elle est arrivée là après, elle s'y est adaptée. Peut-être qu'il y a eu des choses qui sont apparues là. On ne sait pas, c'est des hypothèses.
Il y en a d'autres.
Il y a des gens qui disent, peut-être qu'il a fallu des lacs riches en phosphore, comme il y a à certains endroits en Inde, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait besoin de phosphore pour fabriquer la vie. Et le phosphore, il y a peu de roches dedans, donc on ne sait pas trop d'où il sort ce phosphore. Aujourd'hui, le phosphore qu'utilisent les organismes vivants, c'est que du phosphore organique qui vient d'autres organismes vivants.
Ah oui, d'accord.
Donc, carbone, on sait qu'il vient du CO2, l'azote, il peut venir de l'azote atmosphérique, mais le phosphore, donc là, on ne sait pas d'où il vient. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, à juste titre, que c'était peut-être des lacs qui sont riches en phosphore pour faire ensuite du phosphate. Donc ça fait partie des interrogations.
Oui.
Et puis, il y en a d'autres qui proposent sur des argiles ou sur des minéraux. Parce que pour que les réactions, au début, elles se produisent, il faut un catalyseur. Et les catalyseurs, aujourd'hui, sont les protéines, sont des enzymes. Mais avant qu'elles arrivent, avant qu'elles existent, c'était des métaux, souvent. Alors, par exemple, Il y a Günther Wächterhauser, qui est un Allemand, qui a proposé que ce soit sur de la pyrite. La pyrite, c'est constitué de fer et de soufre. Mmh. Il se trouve qu'il y a beaucoup de protéines ancestrales, on va dire, qui contiennent un atome de soufre, un atome de fer. Donc, c'est des vestiges de cette vie originelle. Une autre hypothèse, ce serait aussi les argiles. Mmh. Qui ont permis de catalyser aussi des réactions. Il y a des expériences qui montrent que ça favorise des réactions qui permettent de fabriquer les premières molécules vivantes. Donc, ça fait partie des hypothèses. Toutes ces hypothèses ne s'excluent pas l'une l'autre, hein, d'ailleurs.
Hein, et on peut on cherche à démontrer ces choses-là.
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui font des expériences. Ils essayent de reconstituer les conditions de ces lieux-là, et de voir s'il y a des molécules organiques, même biologiques, qui se fabriquent, entre guillemets, toutes seules.
Voilà. D'accord. Alors, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que la vie continue d'apparaître? Est-ce qu'on sait s'il y a l'apparition de la vie encore?
C'est possible. C'est possible, mais elle va se heurter à un concurrent de taille, hein. C'est la vie d'aujourd'hui qui va lui prendre tous ses nutriments, tous ses atomes, qui va lui prendre toute son énergie. Donc, elle n'a plus trop la place pour s'exprimer. Elle va avoir du mal à se faufiler et elle va disparaître tout de suite à cause des organismes vivants. La chimie d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même qu'autrefois. Il n'y avait pas de vie avant. Donc, vous pouvez ramasser tout ce qu'il y avait. C'était possible. Aujourd'hui, il y a un concurrent de taille qui fait qu'il n'y a plus d'autres formes de vie que celle sur laquelle on est basé aujourd'hui.
Donc la réponse, c'est peut-être, mais sûrement pas viable.
Voilà, c'est ça, exactement. À cause de la concurrence.
Bon. On a parlé de je ne sais pas si c'est... Bon, tu as parlé de différents endroits d'où pouvait venir la vie. Moi, j'ai entendu aussi que peut-être qu'on recevait de l'espace.
Oui, alors il y a des météorites aussi qui tombent effectivement et qui apportent des molécules de vie, des briques du vivant. Mmh. Ça on le sait, hein. Il y a une météorite de Murchison par exemple qui est très connue. Il y a plus de 70 aminés dessus, différents de ceux que, pour la plupart de ceux qu'il y a sur Terre. Donc oui, il y a, alors de là à dire que... la vie viendrait de l'espace, c'est autre chose. Ça, c'est faudrait qu'on en parle plus longuement.
Peut-être on en parlera
après. Peut-être. D'accord. Oui.
Voilà. Parce que l'heure tourne, tu sais, on a pratiquement terminé pour cette émission. Oui. Mais j'espère que tu vas accepter de revenir parce que on a encore plein de choses à se dire.
Avec grand plaisir.
D'accord. Et ben merci beaucoup. Puis à très bientôt, Véronique.
À bientôt.
Au revoir. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.